This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Et si finalement mieux courir et mieux vivre, c'était d'abord mieux respirer. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de trail, de mode de vie sportif, mais aussi de bien manger, de bien bouger, de bien dormir et aujourd'hui de bien respirer. Ben oui, parce que quand je vais vous annoncer la discipline de mon invité, vous allez trouver étrange que je l'invite, parce que Arthur Guérin est champion du monde, multiple champion du monde d'apnée. Oui, d'apnée. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le running et quel est le lien avec la course à pied? Alors dit comme ça, bien entendu, peut-être vous ne voyez pas si facilement que ça, et pourtant, comme je l'ai dit dans notre discussion avec Arthur, l'apnée et la course à pied ont pour moi un point commun important, utiliser au mieux l'oxygène qui est notre véritable carburant. Lui, comme nous, à un moment, ne pouvons plus respirer. Lui, il choisit de s'immerger dans l'eau, utiliser son énergie et sa nage pour aller le plus loin possible. La compétence d'Arthur, c'est de maîtriser son envie de respirer, aller contre la nature, emmagasiner de l'oxygène et l'utiliser au maximum en allant le plus loin possible. C'est un travail mental intense dont il nous parle dans cet épisode. Nous, en tant que coureurs, nous sommes plutôt victimes de ce manque de souffle. Nous ne pouvons plus respirer, nous n'avons plus à respirer comme nous le voulons, nous n'y avons plus, nous avons le souffle court, nous sommes à bout de souffle. Nous ne sommes plus capables de respirer convenablement, cela nous coupe notre élan et toutes nos forces. Nous ne sommes plus capables d'avancer car oui, nos limites musculaires et respiratoires sont liées. Pire, c'est probablement même la respiration qui nous fait défaut en premier. Ainsi, quand je demande dans le Hamsters Running Club quel est le premier souvenir de course des nouveaux membres, beaucoup me répondent « c'était horrible, je n'arrivais plus à respirer ». En progressant à mon rythme dans le running, j'ai découvert à quel point la respiration, ce fonctionnement inconscient auquel je n'avais pas pensé pendant 40 ans, pouvait et devait en fait être travaillé. J'ai ainsi découvert mes faiblesses dans le domaine et en creusant, j'ai découvert un nouveau monde. L'utilisation de l'oxygène, la tolérance au CO2, la cohérence cardiaque, le rôle du souffle sur le stress, le rôle du diaphragme dans mon corps et l'importance de son fonctionnement pour courir mais aussi pour mieux digérer. Ce n'est pas pour rien si Arthur travaille à mettre ses compétences au service de sportifs en dehors de l'eau, car elle sait que ce travail de respiration améliore les performances et comme il le dit, il sait que en travaillant mieux la respiration, un coureur de marathon ira tout simplement plus vite en se fatiguant moins vite. Enfin, si je voulais inviter Arthur, c'est qu'un jour, l'ami Hermano, que vous connaissez bien désormais avec le podcast de Nakan, les vestiaires et nos aventures swimrun, m'a envoyé un extrait de son livre. Un truc qui m'a totalement parlé au hamster que je suis qui cherche à s'évader de sa roue. Je vous lis l'extrait. « Il est toujours temps d'entreprendre un travail sur soi, la vie est de plus en plus longue et l'apnée nous dit que la jeunesse dure longtemps. Notre société qui a froid au cœur incite trop peu les individus à se dépasser. Nous oublions que l'important est de devenir soi-même. Il faut s'autoriser à explorer ses potentialités sans écouter ceux qui nous exhortent à aller tout droit, à descendre la pente naturelle qui transforme peu à peu un jeune en vieux sans autre bénéfice. » Je suis sûr que cet extrait vous parle autant qu'à moi. Je remercie Hermano pour la mise en contact avec Arthur. Avant de vous laisser écouter cette discussion avec Arthur, je voudrais vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos partages, le partage des que vous faites en story, par exemple, avec KM42 Podcast comme hashtag, ou avec mon nom, Bertrand Soulier, mais aussi vos écoutes sur Spotify, parce que là, on a vu passer des écoutes sur Spotify, des partages des podcasts préférés de l'année. Je voudrais aussi remercier ceux qui soutiennent le podcast par le biais de Patreon. Patreon, c'est une plateforme de financement qui permet, tout simplement, contre 1€ par épisode, et ben d'avoir des suppléments, mon journal d'entraînement tous les lundis, comme ça, où je donne un petit peu les coulisses, hein, vraiment de ce que je fais, de comment je cours, de quels sont mes entraînements. Je diffuse aussi les épisodes à l'avance et surtout, les épisodes sont diffusés sans aucune pub à l'intérieur. Voilà, merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos messages. Ça me fait chaud au cœur et je vous laisse maintenant écouter notre discussion avec Arthur. Bonjour Arthur.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va pas mal. Ça va pas mal comme un lundi de confinement.
Lundi de confinement. Alors, comment on vit le confinement quand on fait ton sport? C'est une question qu'on se pose tous. Hein, tous les invités, je leur demande comment vous vivez le confinement.
Comment on vit le confinement? Bah, sur le premier confinement, ça a été un petit peu délicat parce que j'avais accès à rien en fait, on pouvait pas bouger, donc c'était très strict. Donc en gros, ça a été quasiment pas d'apnée en fait hein, pendant toute la durée du confinement, si ce n'est quelques exercices à sec comme on dit, donc sur tapis de yoga. Mais là, sur le deuxième confinement, on avait quand même plus de liberté, et surtout on avait la possibilité de s'entraîner si on est sportif de haut niveau ou sportif pro. Et donc j'ai réussi à, de par mon statut entre guillemets d'apnéiste professionnel, hein, avec des gros guillemets, j'ai pu obtenir une attestation de la part du directeur technique national de ma fédération pour pouvoir aller m'entraîner en piscine et en mer ici. J'habite juste à côté de la mer, donc ça a été beaucoup mieux sur le deuxième confinement. En fait, même sur le deuxième confinement, j'ai eu des conditions d'entraînement meilleures qu'en temps normal. Parce que du coup, les piscines sont vides, on a des créneaux super. Et en fait, la mairie nous a donné des créneaux extraordinaires qu'on n'aurait jamais eu si on n'était pas en période de confinement. Donc pour l'instant, ces conditions de confinement numéro 2, on va dire, me vont parfaitement et ça va même mieux qu'en temps normal en ce qui concerne les conditions d'entraînement en tout cas.
Je suis jaloux d'avoir une piscine vide, moi, parce que alors aller nager dans une piscine où il y a ces bourrées de monde, c'est un truc qu'on apprécie peu, mais qu'on apprécierait de pouvoir y aller déjà nous à la piscine, donc on n'y a pas accès, mais avoir une piscine vide, ça doit être quand même génial.
C'est royal, c'est royal. On a une. Alors bon, bah je vais m'entraîner avec dans le cadre de mon club, hein, le CIPA, qui est le Centre international de plongée en apnée, qui se trouve à Nice, qui est un club, voilà, qui est un club de renommée internationale, hein, qui a été créé par Claude Chappuis il y a des années. Et voilà, dans le cadre de ce club, on va s'entraîner, voilà, à la piscine Jean Bouin, donc de Nice, et en fait, voilà, l'idée, c'est que moi, je suis entre guillemets, voilà, apnéiste professionnel, et donc je peux m'entraîner dans le cadre de mon club. Il a fallu que le club fasse des demandes de créneaux avec l'attestation de mon DTN, voilà, en gros, pour avoir des possibilités d'entraînement. Et donc j'ai un encadrement avec moi qui vient avec moi à l'eau pour assurer ma sécurité. Et voilà, donc en gros, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir m'entraîner sérieusement pendant ce deuxième confinement. Et du coup, c'est encore plus sérieux qu'en temps normal, parce qu'en temps normal, j'ai pas d'aussi beau créneau, quoi. C'est clair qu'on est sur des conditions avec plein de nageurs autour, enfin, je veux dire, même avec du public parfois. Donc c'est vrai que là, se s'entraîner dans des piscines vides comme ça, c'est vraiment, c'est du luxe, quoi. Alors on a quelques nageurs parfois de haut niveau qui sont là. On a aussi quelques poloistes, donc des gens qui font du water polo qui sont avec nous. Mais grosso modo, on est quand même très tranquille, quoi. Et ça, c'est vraiment vraiment agréable. En plus, c'est une grande piscine, une magnifique piscine avec de grandes baies vitrées. Exposé sud-sud-est, donc on a le soleil qui rentre, donc on a vraiment voilà, un très beau bassin pour nos entraînements pendant ce confinement. Donc j'en profite pour remercier la municipalité de Nice d'ailleurs de nous avoir fourni ces créneaux.
Alors, tu as employé, je pense, deux fois l'expression je suis pro, entre guillemets, apnéiste professionnel, entre guillemets. À quoi correspondent ces guillemets, en fait?
Bah, c'est des gros gros guillemets parce que en fait être apnéiste pro en réalité c'est pas du tout être apnéiste pro en fait. Je m'explique. En fait, on n'est absolument pas sportif professionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré par un club, on n'est pas rémunéré par notre fédération, parce que évidemment, c'est un sport qui, malgré le fait qu'il fasse rêver le public et les médias, c'est un sport qui reste assez peu diffusé, notamment les compétitions. Et donc en fait, on a très peu de droits TV, très peu de sponsoring à grande échelle. Et en fait, du coup, on n'a pas de professionnalisation dans ce sport. C'est-à-dire que aujourd'hui, un apnéiste professionnel, c'est pas un sportif pro. En fait, c'est un athlète sponsorisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vivre grâce à ces partenariats de sponsoring uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de statut sportif professionnel. En fait, c'est pas encore le cas. Ça le sera, j'espère, un jour. Mais en tout cas, c'est pas encore le cas. C'est un sport qui reste, voilà, hein, encore une fois, malgré le fait que ça fasse rêver les gens, c'est pas assez diffusé à la télévision. Et donc, en fait, on a tout simplement pas assez de retombées publicitaires et donc pas assez de sponsoring à grande échelle, quoi. Alors après, il y a quelques athlètes, le très haut du panier, on va dire, qui s'en sort. Alors, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, hein, mais en gros, c'est que du développement de projets avec des partenaires et de la représentation, en fait, en tant qu'ambassadeur de marque, en tant que. Voilà, c'est aussi un boulot en tant que producteur de contenu aussi. C'est aussi un boulot en tant que conférencier, aussi en tant qu'organisateur de masterclass aussi, hein, donc de stage, voilà. Donc c'est vraiment en fait une professionnalisation dans laquelle on brode autour de cette activité en fait, mais ça n'est absolument pas l'activité en elle-même qui nous fait vivre. Et d'ailleurs, les quatre ou cinq qui s'en sortent réellement professionnellement parlant dans l'apnée, en fait, ce sont des athlètes qui ont arrêté la compétition et qui se tournent uniquement vers de la représentation, de la production de contenu. Hein. Donc, je pense à Pierre Frola, je pense à Morgane Bourquis, je pense à Guillaume Néry notamment. C'est des athlètes qui sont 100% professionnels aujourd'hui dans l'apnée et qui ont tous arrêté la compétition justement pour pouvoir développer cette activité d'apnéiste pro en fait, donc créer du contenu, organiser des événements avec les partenaires, voilà, faire du médiatique. Donc voilà, c'est aujourd'hui c'est ça être apnéiste professionnel malheureusement.
D'accord. Alors, quand tu dis créer du contenu, c'est quoi? C'est aller faire des films dans des lieux particuliers? C'est quoi exactement en fait?
Bah, en fait, c'est un sport qui est très visuel. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un apnéiste sous l'eau avec un caméraman, si l'apnéiste sait à peu près faire de l'apnée et le caméraman sait à peu près faire des images, on a très vite des trucs très beaux. Hein, c'est-à-dire que on fait des plans en apnée au ralenti avec des bonnes caméras et il suffit qu'on ait un peu de lumière et puis voilà, ça peut très vite devenir très beau. Alors après, on a quand même des mecs qui ont énormément de talent, hein. Je dis pas qu'ils n'ont pas de talent, mais en tout cas, c'est un environnement qui nous permet de faire vraiment des trucs assez jolis. Et donc, il y a un potentiel en fait de communication énorme derrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, créer du contenu, ça fait partie en fait des trucs qu'il faut maîtriser en tant qu'apnéiste professionnel, parce que ça passe vraiment par là, quoi. Ça passe que par là, en fait. C'est faire du contenu qui fait rêver les gens, à diffuser sur les réseaux sociaux, dans les médias, voilà, sur Internet. C'est une priorité, en fait, aujourd'hui, si on veut se professionnaliser dans l'apnée, c'est réussir à créer du contenu de qualité. C'est pas par la performance qu'on va y arriver, en fait.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que même quand on est champion du monde, finalement, quand on a c'est quoi ton palmarès? Parce que les gens resituent exactement pour qu'ils aient bien l'idée un petit peu du palmarès.
Moi, j'ai été 5 fois champion du monde, voilà, dans différentes disciplines d'apnée, et j'ai 4 records du monde. Voilà, parce que champion du monde ne veut pas forcément dire record du monde, et record du monde ne veut pas forcément dire champion du monde, hein, c'est 2 choses différentes. Souvent, les médias font l'amalgame et confondent les deux. Même d'ailleurs, souvent, les athlètes s'amusent un petit peu à pas différencier les deux, justement, pour des raisons de communication, on va dire. Mais en fait, c'est 2 choses bien différentes, hein. On peut faire un record du monde qui n'est pas dans le cadre d'une compétition, devenir recordman du monde sans être champion du monde. Et puis, on peut avoir un titre de champion du monde sans faire de record. Hein, ça peut arriver aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est voilà, 5 titres mondiaux et 4 records du monde dans différentes disciplines d'apnée, principalement indoor. Voilà, c'est là-dedans que je me suis spécialisé, moi.
Indoor, alors ça veut dire que c'est quoi? C'est dans des bassins? On est loin du grand bleu dans l'image. L'apnée, c'est le grand bleu en fait, moi j'ai envie de dire.
Ouais, bah l'apnée pour moi, c'est tout un tas de choses en fait. C'est-à-dire que même si j'ai eu mes médailles et mes titres en apnée dynamique, on appelle ça comme ça, donc c'est-à-dire on essaye d'aller le plus loin possible en apnée, hein, je pratique toutes les formes d'apnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis diversifié. En fait, j'ai déménagé même à Nice pour pouvoir pratiquer en mer, en fait, et pour pouvoir profiter comment dirais-je, de la mer, en fait, bah de la rade de Villefranche en particulier qu'on a ici et qui est un endroit fabuleux pour pratiquer. Et donc, je me suis, voilà, c'est pour ça que je me suis, que je suis venu vivre ici. Donc, effectivement, là où je me suis illustré comme athlète, c'est une discipline indoor, donc c'est vraiment aller le plus loin possible. Alors, indoor, pas seulement, parce que j'ai aussi un record d'apnée sous glace, donc ça, c'est en lac gelé. Donc, c'est une discipline outdoor, on peut dire ça. En tout cas, c'est pas en profondeur pure et simple que je me suis illustré, même si aujourd'hui, la majorité des contenus que je produis en termes de communication, donc que ce soit pour mes partenaires, pour les médias, ou pour mes réseaux sociaux, c'est du contenu que je vais produire en fait en milieu naturel et en profondeur. Voilà, en profondeur entre guillemets, parce que la majorité des contenus, on les produit entre 0 et moins 30 mètres. Hein. On va rarement en dessous pour faire des photos. Donc voilà, la majorité de mes contenus, je les fais en mer. Et ensuite, moi, pour ma propre pratique personnelle, pour mon entraînement, je descends aussi en mer, voilà, où je m'entraîne sur 50-60 mètres, on va dire, maximum, parce que c'est une discipline qui demande énormément de temps pour s'adapter. Donc, malgré que je sois, voilà, multiple recordman en apnée dynamique, ça ne veut pas forcément dire que je suis le meilleur en profondeur. Loin de là, hein, chacun sa spécialité, et vice-versa, ceux qui sont les meilleurs en profondeur ne sont pas les meilleurs en dynamique. Donc on a, voilà, c'est des sports en fait qui sont même assez à mettre vraiment sur, je dirais que c'est vraiment deux sports différents, quoi. Hein, c'est comme si on comparait le water polo et la natation, quoi. Voilà. Ça se pratique dans le même milieu, mais c'est deux sports qui sont assez différents en fait. Ouais.
Comment t'es venu à l'apnée? Comment on vient à un sport comme ça finalement? C'est du hasard, c'est du.
C'est non, c'est pas vraiment du hasard. Hein. J'ai été dans l'eau moi depuis gamin. Voilà, où j'ai été mis dans le bain assez jeune par mes parents. Et très vite, j'adorais en fait. Voilà, j'adorais patauger, quoi. Et après, donc bon, bah, pendant ma jeunesse, j'ai aussi vu Le Grand Bleu, qui m'a beaucoup marqué. Et il y avait quelque chose qui me parlait vraiment dans cette atmosphère, cette esthétique, cet état d'esprit, on va dire. Et donc ça m'a vraiment parlé. Je me suis intéressé à ce sport, mais je m'y suis intéressé vraiment en pratiquant, quoi. C'est-à-dire que j'allais en vacances sous la flotte voir les poissons, j'essayais de descendre un peu pour m'amuser. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Et je m'y suis intéressé sérieusement que relativement tard, en fait, à l'âge de 26 ans, où à un moment je me suis posé la question, parce que je cherchais un club de natation, en fait, pour me faire suivre par un coach en natation. Et en cherchant, en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée? Je dois pas être le seul quand même à kiffer ce sport. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'en fait il y avait plein de clubs et que c'était un sport qui était en pleine explosion et qu'aujourd'hui il y a même plus une piscine municipale en fait en France là où il y a pas un club d'apnée, quoi, tu vois. Et même les clubs d'apnée prennent le pas sur les clubs de plongée bouteille entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a plein de clubs de plongée bouteille aujourd'hui en France dans des piscines qui existent depuis super longtemps, et l'apnée est en train de se développer hyper vite, et donc en fait tous les clubs de plongée bouteille sont obligés d'ouvrir des sections apnée au sein de leur club, et aujourd'hui les sections apnée sont souvent beaucoup plus importantes que les sections plongée bouteille, et donc en fait ça devient presque des clubs d'apnée, quoi, parce que l'apnée est en train de prendre une ampleur énorme et que ça devient la majorité des licenciés dans ce genre de club, quoi. Donc voilà, je me suis rendu compte en fait, moi, à cette période-là, qu'il y avait plein de clubs et que j'étais pas le seul à avoir eu cette idée-là. Et donc je me suis inscrit dans un club tout simplement, et voilà, j'ai commencé comme ça sur le tard à l'âge de 26 ans, même si c'est un sport qui m'a marqué assez jeune, quoi. quand j'ai vu ce film de Luc Besson la première fois, quoi.
Et tu deviens champion du monde combien de temps après, en fait?
Je deviens champion du monde en 2013, après 2 saisons en fait d'apnée découverte, on va dire. J'appelle ça comme ça. Donc assez vite, hein. Mais c'est un sport dans lequel en fait il est possible d'arriver très vite à haut niveau si on sait à peu près nager, si on a un peu la fibre apnée quand même, il faut le dire. Mais surtout si on a les capacités mentales pour réussir à se dépasser dans ce sport. Alors je parle d'apnée indoor, hein, là je parle pas de profondeur où ça demande vraiment des années d'adaptation à cause de la compression, mais je parle d'apnée dynamique. Là on peut vraiment aller loin très rapidement si jamais on a les capacités mentales pour réussir à gérer le dépassement de soi que ça implique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est alors pour la profondeur, voilà, attention, hein, c'est autre chose. Faut pas tout de suite descendre à 50 mètres ou voilà. On y va vraiment très progressivement, parce qu'il y a une composante acclimatation à la compression qui est très importante, où il faut vraiment faire attention à ses poumons, à ses oreilles. Voilà, il faut faire très gaffe. Mais en revanche, en piscine, on n'est pas soumis à la compression, et donc on peut très vite progresser et aller très loin, quoi. Voilà, si on a ces capacités mentales.
Alors c'est ce qui m'intéresse justement, ces capacités mentales, parce que c'est vrai que tout le monde a l'idée de se mettre dans l'eau, de retenir son souffle, d'essayer de dire combien de temps je vais rester. Mais finalement, quand on devient dans ces compétitions, quand on fait de l'apnée à ce niveau-là, c'est autre chose qui se joue, parce que c'est quoi vraiment, tu disais, de capacité mentale? Comment ça se travaille? Comment tu... C'est quoi le point difficile, en fait, qui fait qu'on arrive à passer le cap pour devenir un champion, finalement?
Bah, c'est une vaste question, c'est-à-dire qu'il y a... encore une fois, je vais parler d'apnée dynamique, hein, donc en indoor, en piscine. Bon, déjà, il faut distinguer deux choses. Alors, c'est pas le même travail, en fait, en profondeur et, voilà, et en piscine, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que... En profondeur, ça va être beaucoup plus axé sur la compensation des oreilles, sur l'acclimatation des poumons à la compression, sur le relâchement, malgré la prise de risque évidente. Ça va surtout être ça, en fait, en profondeur. En piscine, c'est un travail qui va être beaucoup plus axé sur la technique de nage et le dépassement de l'envie de respirer. Voilà, la gestion de cette envie de respirer qui peut être très forte en piscine, beaucoup plus qu'en mer. Donc, si j'avais vraiment à différencier les deux, je dirais que ce que j'aime bien dire, moi, c'est que les guerriers de la prise de risque et du relâchement, c'est vraiment les apnéistes profondeur. Et les guerriers de l'envie de respirer, c'est vraiment les apnéistes piscine. Enfin, piscine, les apnéistes qui font du dynamique, en tout cas, qui font de la distance. Et si tu veux, bah, la question, pour répondre à ta question, en fait, en piscine, qu'est-ce qui fait qu'on arrive en fait à devenir un champion, devenir un champion, en tout cas à progresser, c'est vraiment dans la gestion mentale de l'effort. C'est vraiment la gestion mentale de cette envie de respirer qui est un effort très particulier, parce qu'on apprend à dompter et à dépasser un réflexe de survie primaire. Ce qui n'est pas le cas, j'ai jamais vu un autre sport où on avait affaire à ça, quoi. Donc là, c'est vraiment l'envie de respirer qu'il faut absolument réussir à maîtriser, à dompter et à dépasser, en fait. À accepter, surtout. Hein. C'est surtout ça, hein. C'est accepter cette envie de respirer, en fait. Et l'envie de respirer, en fait, en réalité, c'est quelque chose qui paraît insurmontable quand on ne connaît pas, hein, quand on essaye la première fois, surtout quand on a peur, évidemment, les gens ont très peur de ça. Alors après, quand on a compris qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, déjà, ça débloque pas mal de choses. Et ensuite, c'est un boulot, c'est-à-dire que c'est un entraînement. C'est-à-dire que petit à petit, au début, c'est dur, et puis bah, après, on apprend à le gérer mentalement, et puis le cerveau s'adapte, le cerveau s'habitue à cet effort, et puis... voilà, ben ça reste difficile, hein. Pour moi aussi c'est très dur, hein, mais j'apprends à le gérer, en fait. Et l'envie de respirer, en fait, c'est difficilement qualifiable, parce que si tu veux, c'est pas, comment dirais-je, comme en course à pied, peut-être, on va se dire, on apprend à gérer la douleur musculaire, si tu veux, au niveau des quadriceps, tu vois, où on apprend à la gérer, on apprend à gérer l'envie de vomir, on apprend à gérer la fatigue extrême, machin. Non, là, c'est très difficile parce qu'en fait, l'envie de respirer, c'est pas vraiment une douleur, c'est une sensation, en fait. Tu vois, c'est une sensation désagréable. Ça provoque pas de douleur, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas quelque chose de palpable, d'un coup, tu sens la douleur. C'est une impression désagréable, en fait, l'envie de respirer. Et donc, en fait, il faut réussir à apprendre à gérer ce sentiment désagréable, l'envie de respirer. C'est une gêne, en fait, hein, l'envie de respirer. Et c'est une gêne qui peut être très forte, hein, attention, hein, qui peut être très désagréable. Mais voilà, il suffit d'apprendre à la gérer et d'apprendre à la dépasser. Et de connaître aussi, d'être à l'écoute de son corps pour connaître ses limites et pas aller trop loin, évidemment, parce que le but est de sortir quand même conscient et sans avoir dépassé ses limites. Donc ça, c'est une chose qu'il faut apprendre aussi. Mais en tout cas, en termes de gestion mentale de l'effort, c'est vraiment ça. Hein. C'est apprendre à dépasser l'envie de respirer, ce qui est pas forcément évident, en tout cas au début, quoi.
C'est ce que quand je faisais des recherches un petit peu sur ce sujet, j'avais vu des citations, des choses comme ça, sur le, finalement, il y a une maîtrise du souffle, bien sûr, de la respiration, du rythme cardiaque aussi, qui est forcément très importante, parce que il y a une question d'économie, finalement, énorme d'énergie, et de l'oxygène que tu emmagasines au départ, pour finalement utiliser je dirais quoi, le plus longtemps possible, le plus loin possible en se déplaçant le plus, j'ai l'impression que c'est à un moment donné une question d'économie, cette histoire-là, en fait.
C'est exactement ça. Voilà, le but étant d'essayer de partir en étant le plus calme possible, le plus relâché possible, que ce soit en mer ou en piscine, hein, d'ailleurs. Hein, c'est la même chose dans les deux. Dans les deux milieux. L'idée est de partir, voilà, en ayant le métabolisme le plus lent possible. Donc, ça demande un peu de préparation. Après, on a chacun sa méthode, hein, pour se préparer. Hein, ça dépend des athlètes. Moi, je sais que j'ai besoin de pas mal de temps. Je peux me préparer environ pendant 2 heures avant des apnées très longues. Donc, avec des phases de yoga, d'étirement, des exercices de ventilation, de visualisation beaucoup, des exercices d'apnée à sec même, d'échauffement avant de me mettre à l'eau. Et après, effectivement, une fois qu'on est parti dans cet état déjà très, très relâché, très ralenti, l'idée est d'essayer de nager en essayant d'utiliser le moins d'énergie possible, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible en grillant le moins d'oxygène possible. Donc il faut essayer d'être économe sur notre consommation d'oxygène, en fait, quoi. C'est exactement ça. Il faut essayer d'être efficient, le plus efficient possible dans la nage qu'on utilise. Alors après, les histoires de rythme cardiaque. Alors ça, on arrive à baisser un peu le rythme cardiaque avec des exercices de ventilation avant de partir, hein. Mais c'est absolument pas par la pensée. Hein. Beaucoup de gens se disent « Ouais, les apnéistes, c'est des yogis, ils sont incroyables. » Rien que par la pensée, ils arrivent à réduire le rythme cardiaque. Non, pas du tout. Hein. Et même s'il y a des athlètes qui racontent ça, voilà, c'est des menteurs. Donc c'est pas par la pensée qu'on y arrive. Hein. C'est avec des exercices de ventilation, de concentration et de ventilation couplée, on va dire, à la rigueur, mais c'est pas que par la pensée, quoi. Donc il y a des exercices de ventilation qui permettent de faire ça, mais qui marchent avec tout le monde. C'est ça aussi, c'est-à-dire que ça marche pas qu'avec les apnéistes. C'est-à-dire que moi, si demain je te fais faire ces exercices-là, ton rythme cardiaque va descendre grâce à ces exercices de ventilation. La ventilation a un pouvoir énorme, en fait, sur la régulation du système cardiovasculaire, hein, et notamment donc du rythme cardiaque. Donc on a la ventilation est un outil très puissant qui nous permet à tous, hein, pas qu'aux apnéistes, de réguler le métabolisme, en fait, hein, donc de réguler la vitesse du métabolisme, donc la vitesse, l'état dans lequel se trouve le corps, en fait, d'une manière générale. Et donc, si tu veux, avant de partir, voilà, après s'être préparé pendant 2 heures, effectivement, le rythme cardiaque a baissé un peu. Après, il faut savoir aussi que pendant l'apnée, le rythme cardiaque baisse aussi, hein. Il y a une chute du rythme cardiaque, ça fait partie de ce qu'on appelle les réflexes d'immersion, ces fameux réflexes d'immersion qu'on retrouve chez tous les apnéistes. Alors, plus ou moins fort selon les apnéistes, on n'est pas tous égaux, parfaitement égaux génétiquement par rapport à ça, on va dire. Mais chez tous les apnéistes, chez tous les êtres humains d'ailleurs, et chez tous les mammifères même, de manière encore plus générale, on retrouve ce réflexe d'immersion, enfin ces réflexes d'immersion qui vont être principalement une vasoconstriction périphérique. Donc on va avoir le sang qui reflue des membres, donc des bras et des jambes, principalement vers les organes nobles, donc cœur, cerveau, poumon. Et avec cette vasoconstriction, il va y avoir une bradycardie, donc un ralentissement du rythme cardiaque. Et ça se retrouve chez tous les mammifères, voilà. Chez tous les êtres humains, évidemment, chez toutes les baleines, tous les dauphins, et chez les apnéistes aussi, du coup. Alors, ces réflexes d'immersion, ils s'entraînent, hein, c'est-à-dire qu'au début d'une carrière d'apnéiste, voilà, ça va être relativement modéré peut-être, et avec l'entraînement, ça va être de plus en plus fort, et au final, les réflexes d'immersion peuvent être assez intenses. Et donc, la chute du rythme cardiaque fait partie de ces réflexes d'immersion. Et effectivement, quand je suis en apnée, par exemple, je sais que on avait mesuré mon cœur à moins de 30 pulsations minute, sur des apnées assez prolongées. Donc, ça peut vraiment dropper très très bas. Donc, ça, c'est des mécanismes en fait de protection, hein, du corps qui se protègent en fait face à l'apnée. C'est vraiment réflexe, c'est-à-dire que c'est inné. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre patrimoine génétique, ce qui prouve qu'on est génétiquement programmé pour faire de l'apnée. On a tout ce qu'il faut dans notre patrimoine génétique. Et donc le corps se protège très très bien quand on est en apnée. J'irais même plus loin. Au moment où on commence à avoir envie de respirer, en réalité, c'est le moment où le corps met en place toutes ses adaptations. Hein, le moment où on arrête de respirer, tout va bien. Bon, ça dure un certain temps, entre, je sais pas, 10 secondes et 5 minutes pour les apnéistes les plus entraînés. Je prends ça au hasard, hein, c'est peut-être pas ça, mais je donne c'est pour l'exemple, on va dire. Et à partir du moment, si vous voulez, où on commence à avoir vraiment envie de respirer, en fait, c'est à ce moment-là où le corps commence vraiment à mettre en place les adaptations physiologiques pour se protéger. Donc ça, en général, c'est corrélé, hein, les deux ensemble, quoi. On sait que quand on commence à avoir envie de respirer pendant une performance, on se dit, OK, là, ça y est, mon cœur est en train de vraiment chuter, le corps se met en économie d'énergie, et on est en mode protection, quoi. Voilà, en mode survie pour aller loin en apnée, quoi. Voilà. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de profiter de ces adaptations physiologiques, effectivement d'être relativement calme avant le départ, d'avoir un rythme cardiaque assez bas. Et de pendant la performance d'être le plus économe possible, le plus aquatique possible, pour aller le plus loin possible en grillant le moins d'oxygène possible, quoi. En gros, c'est ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, respirer nous semble quelque chose qui est naturel, et qui est naturel quand on nous apprend pas à respirer. Enfin, il y a la première respiration, mais en fait, on se rend pas compte vraiment comment fonctionne la respiration réellement, quels sont les mécanismes d'échange. Et moi, quand j'avais vu mon naturopathe, il m'avait fait faire le test de Buteyko sur le CO2, le lien qu'on a avec le CO2. Et en fait, on se rend pas compte que finalement, notre respiration, les échanges gazeux, tout ce qui se passe dans le corps, et que finalement c'est des choses qui se travaillent. Et moi, il m'a même dit un truc, il m'a dit, alors que j'avais fait le marathon, j'ai couru 2000, enfin pas 2000 km, mais pas mal, et il me dit, mais en fait, t'es pas en très bonne santé, il m'a dit, parce que t'as une mauvaise résistance au CO2. Il y a un moment donné, alors, comment on peut expliquer ça? Parce que quand on trail quand on est apnéiste, bien sûr, c'est quelque chose qu'on prend en compte.
Ah oui, bien sûr. Bah, c'est d'ailleurs une piste d'étude hyper intéressante qu'on est en train de développer actuellement, que je suis en train de développer avec l'INSEP. C'est d'essayer de voir quels sont les impacts justement de l'amélioration de la tolérance au CO2 et à l'hypoxie aussi, donc à l'excès de CO2 et au manque d'O2. Chez les athlètes de discipline olympique. C'est-à-dire de voir quels peuvent être les intérêts pour un marathonien, par exemple, d'avoir une meilleure tolérance à l'excès de CO2 et une meilleure tolérance au manque d'O2. Et je suis persuadé que ça peut augmenter significativement les performances. C'est-à-dire que aujourd'hui, si moi je fais faire un stage d'apnée à un marathonien, et que je l'entraîne sur 6 mois à améliorer sa tolérance au CO2 et au manque d'O2 aussi, hein, les deux. Je pense que c'est clair qu'il peut y avoir, s'il maintient son entraînement, lui, à côté classique, je suis sûr qu'il peut y avoir un gain dans les performances. Parce qu'en fait, effectivement, tout le jeu de l'apnéiste, c'est de travailler ces deux filières principalement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hypercapnie, donc la tolérance au CO2, et l'hypoxie, donc la tolérance à la chute d'O2. C'est vraiment, quand on arrête de respirer, d'une manière générale, le CO2 augmente et l'O2 chute. Hein. C'est-à-dire qu'on consomme l'oxygène et on produit du CO2. Et comme on ne peut pas se ventiler pour recharger en oxygène et évacuer le CO2, ben ça s'accumule en fait. Donc l'O2 disparaît, le CO2 s'accumule. Et donc tout le jeu de l'apnéiste, en fait, dans son entraînement, qu'il soit apnéiste de haut niveau ou pas d'ailleurs, c'est de réussir à améliorer en permanence en fait sa tolérance au CO2, à l'excès de CO2 et sa tolérance à l'hypoxie, donc à la chute du taux d'oxygène dans le sang. Et je suis, ouais, effectivement, voilà, je suis persuadé que il peut y avoir des passerelles intéressantes vers d'autres sports. Alors après, si ton naturopathe t'a dit ça, je pense que c'est le cas, hein, d'un peu tout le monde, hein. Ça demande vraiment un entraînement spécifique, apnée, voilà, sur lequel on va réaliser d'ailleurs, c'est pas les mêmes exercices, hein, des exercices spécifiques pour le CO2, des exercices spécifiques pour l'hypoxie, donc pour la désaturation en O2. Et c'est pas les mêmes exercices. Et je pense que voilà, si je fais faire ce genre d'exercice, tu retournes voir ton naturopathe dans 3 mois et t'auras une bien meilleure tolérance au CO2, c'est clair. Et je pense que ça peut, voilà, ça peut vraiment marquer une différence significative, voilà, dans la performance en course à pied, par exemple.
Oui, parce que finalement, tout sportif a un truc, c'est qu'il doit utiliser l'oxygène qu'il est capable de capter à un moment donné, de savoir l'utiliser, de le transformer en quelque chose qui est de l'énergie, hein, au final. Donc c'est là où on a les passerelles, et c'est ce qui m'intéressait, ces passerelles-là, parce que on n'est pas du tout dans les mêmes univers en apparence, et pourtant, le carburant de base reste de l'oxygène, en fait.
Ouais, bien sûr, et c'est pour ça que, alors, que ce soit en termes de tolérance au CO2 ou en termes de gestion de l'O2, effectivement, je pense que, oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui court, de toute façon, il consomme beaucoup d'O2 et il produit beaucoup de CO2. Et donc, je pense que, voilà, améliorer ces filières-là ne peut avoir qu'un impact positif, hein, sur le niveau de performance. C'est clair.
Alors, tout à l'heure, tu parlais d'hyperventilation, de ces exercices-là, en disant que ça améliore la santé, ça améliorerait la vie de tout le monde. C'est quel type d'exercice? Alors, c'est compliqué d'expliquer ça en podcast, mais c'est-à-dire qu'on pourrait suivre un entraînement assez simple, ou est-ce que c'est compliqué, qui permettrait de faire des petits exercices, qui permettraient d'améliorer ça, et dont on aurait des bénéfices en sport, mais en dehors du sport aussi, hein, je veux dire.
Alors, je parlais de ventilation, attention,
oui,
pas
ventilation,
d'hyperventilation.
Oui.
L'hyperventilation étant plutôt à éviter en apnée, hein, et même de manière générale en pratique sportive, hein, on n'hyperventile pas avant de partir sur un sprint ou autre. Non, je parlais de ventilation, mais oui, la ventilation est... Oui, alors après, ça dépend les objectifs dans ta question. Est-ce qu'on parle d'impact sur la performance, ou est-ce qu'on parle d'impact sur le bien-être et sur l'équilibre psychique? Parce que c'est deux choses différentes, mais je pense que de toute façon, il y a des exercices qui peuvent être faits et qui peuvent apporter énormément sur les deux tableaux. Après, je pense que pour si tu veux apprendre à faire quelques petits exercices de ventilation pour calmer son stress, ça c'est très facile et très rapide. Voilà. Ça il suffit de le faire. Quelqu'un qui le fait pour la première fois, il va en ressentir les bienfaits. Pour améliorer la tolérance au CO2 pour un marathonien, il va quand même falloir procéder à quelques séances, quoi. C'est un cycle qui peut se faire sur 3 semaines, 1 mois, quoi, tu vois. Je pense, mais pour ce qui est de la gestion du stress, de faire chuter le rythme cardiaque, de voilà, se relaxer, etc., ça c'est très rapide à mettre en place, hein. Il y a quelques exercices très simples de ventilation qui peuvent se faire en 5 minutes en 5 minutes, voilà, ça peut déjà fonctionner, quoi. Voilà, c'est deux choses différentes. Après, si vraiment, si on parle d'améliorer les performances sportives grâce à la tolérance au CO2 et à l'hypoxie, bah là, par contre, il va falloir se retrousser les manches et faire un cycle complet d'entraînement sur 3 semaines, 1 mois, je pense. Ouais.
Est-ce que, parce que, alors on parlait juste avant de commencer à enregistrer, finalement l'entraînement d'un apnéiste, il n'est pas que dans l'eau, hein, il y a tout ce qu'il y a aussi autour, hein, et notamment, tu disais,
Sûr.
tu cours aussi.
Ouais, course à pied. Ouais, course à pied, natation aussi. J'aime bien nager. C'est important de nager pour la prise d'appui et puis pour l'aquacité. On appelle ça comme ça. De la musculation aussi. On travaille la résistance musculaire et des étirements. Voilà, des étirements aussi. Pas mal d'étirements thoraciques notamment pour améliorer la souplesse de la sphère thoracique. Donc diaphragme, intercostaux, sternum, dorsaux, même au niveau claviculaire, voilà, on essaie d'assouplir un maximum toute cette zone. Voilà, donc il y a pas mal de boulot, ouais, qu'on fait en dehors de l'apnée, et ce qui fait que si on veut vraiment, voilà, se donner toutes les chances, ça devient un boulot quasiment à plein temps, quoi.
Alors, tu me disais que vous faisiez de la course en apnée, courir en apnée, ça ressemble à... Enfin, moi, c'est un truc qui me semble impossible à faire, mais ça ressemble à quoi finalement une séance comme ça?
Alors c'est bon, effectivement, on peut courir en apnée. Moi, je préfère le faire sur vélo ou sur rameur quand même, et même sur vélo, comment dirais-je, sur vélo d'appartement, hein, plutôt que sur vrai vélo. C'est encore mieux même si on n'a pas à se soucier de là où on va. Donc c'est intéressant, oui, de faire des exercices cardio en incluant des phases d'apnée. Ça c'est très bon notamment pour travailler la tolérance au CO2, donc ce qu'on appelle l'hypercapnie. Et effectivement, oui, se faire des cycles sur vélo d'appartement avec des phases de rétention de souffle. Ouais, ça peut être un très très bon exercice, un très très bon entraînement sur rameur aussi, si on veut simuler aussi l'effort au niveau des bras, par exemple, si on veut travailler des performances à la brasse. Ça peut être intéressant de travailler sur rameur avec des phases de rétention. Oh ouais, il y a plein plein de jeux différents et d'exercices différents à réaliser, voilà, sur ces outils-là. Mais voilà, ça c'est bon. Je sais pas s'il faut que je donne des exemples ici, mais c'est de toute façon à réaliser avec quelqu'un sous surveillance, hein, bien sûr, hein, jamais seul, parce que si on perd connaissance sur un vélo. On peut se faire très mal en tombant. Si on perd connaissance en courant, pareil, on peut se faire très mal. Donc faire attention à ça, hein, vraiment. Donc toujours sous surveillance. En fait, d'une manière générale, le seul moment où on peut travailler l'apnée sans surveillance, c'est en fait allongé sur un tapis de yoga ou sur un canapé. Hein, c'est les seules circonstances dans lesquelles on peut pratiquer l'apnée sans surveillance. À partir du moment où on fait de l'apnée, que ce soit en marchant, sur un vélo, sur un rameur, ou en courant, ou même dans l'eau, même dans une baignoire, il faut impérativement avoir quelqu'un qui est là pour assurer une surveillance, parce qu'il peut y avoir quand même des pertes de connaissances, donc la fameuse syncope hypoxique, hein, qu'on essaye d'éviter, hein, mais qui peut de toute façon arriver, et qui peut arriver sans prévenir, c'est ça le problème. Donc c'est que si, vu qu'on ne la voit pas arriver forcément, il vaut mieux être toujours sous la surveillance de quelqu'un qui peut être là pour intervenir en cas de syncope. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, oui, travailler l'hypercapnie sur vélo, sur rameur ou même en courant, pourquoi pas, c'est une très très bonne technique d'entraînement, et tous les athlètes à haut niveau sont passés par là, ouais.
Alors, pour qu'on se rende compte quand même, c'est que ça serait, enfin, quelqu'un qui est à ton niveau, parce que ça serait, tu cours combien de temps? T'es capable de courir combien de temps en apnée?
J'ai jamais fait le test. J'ai jamais fait le test, c'est marrant. Mais partir à froid comme ça en courant en apnée, Je serais incapable de te dire. J'ai jamais fait le test. J'ai jamais fait le test. Ce que je... En fait, on tente pas des max quand on fait ce genre de choses. Tu vois, on travaille sur 10, 15, 20 minutes, par exemple, où on va avoir une phase d'échauffement où on pédale pendant 5 minutes, 10 minutes, voilà, pour bien s'échauffer. Ensuite, on peut faire, par exemple, un 10 fois 30, 30, tu vois. Voilà, avec 30 secondes d'apnée, 30 secondes d'apnée avec pédalage intensif, une bonne résistance et 30 secondes de récup tranquille, par exemple. Voilà, 10 fois 30, 30, 5 minutes de pause et redis fois 30, 30, par exemple. Et après, on augmente la difficulté. Si ça passe, on fait du 45-30 ou 1 minute 30, par exemple. Voilà, ça peut être un exo. C'est vraiment, il y a tellement d'exos différents. On peut faire aussi, par exemple, une pyramide, ce qu'on appelle des pyramides, c'est-à-dire on pédale à rythme constant. Et puis on est sur des cycles d'une minute, donc des départs à chaque fois à la minute. Et on commence avec 5 secondes d'apnée, 55 secondes de récup, par exemple. Puis 10 secondes d'apnée, 50 secondes de récup. Puis 15 secondes d'apnée, 45 secondes de récup, etc. Jusqu'à 55 secondes d'apnée, 5 secondes de récup. Voilà. Et puis après, on repart dans l'autre sens. Par exemple, ce genre de pyramide, tu vois. On est plutôt sur ce genre d'exo que sur des tests max, en réalité, quand on travaille en dehors de l'eau. Là, c'est vraiment pour l'accoutumance au CO2, quoi. Vraiment. Hein. Voilà. Donc, on travaille sur ce genre de, tu vois, sur ce genre d'exo, en fait, quoi. Ou alors, par exemple, il peut y avoir, bon, un truc que j'aimais bien faire, moi, sur Rameur. C'était, par exemple, 1 minute 30, haute intensité sur Rameur. Et au bout d'une minute trente, j'arrête tout et je pars en apnée sur 1 minute, par exemple, quoi, tu vois. Avec le cardio à 140, les muscles très chargés, voilà. Et là, ça permet, voilà, de travailler la résistance mentale et de partir avec un niveau de CO2 qui crève le plafond déjà, et de partir en apnée, donc avec envie de respirer dès le début, réussir à tenir des apnées comme ça, 1 minute, tu vois. Voilà, c'est vraiment, on peut vraiment jouer sur tout, sur les temps d'apnée, les temps de récup, l'intensité de l'effort musculaire. Il y a vraiment tout un tas d'exercices à essayer, en plus qui peuvent varier selon les supports, qu'on soit au rameur, qu'on soit sur vélo, qu'on soit en course à pied, ou qu'on soit même en marchant, hein, sur de la marche. Il y a vraiment tout un tas d'exercices à tenter et qui sont vraiment très efficaces. Voilà, travailler en dehors de l'eau comme ça, je sais que c'est très efficace pour l'entraînement, même si ça reste très important de pratiquer dans le milieu, hein. C'est vraiment très important. Hein.
Mais c'est intéressant parce que cette histoire du 30-30, ça parle à tout le monde, à tous ceux qui sont au club, qui s'entraînent, qui font de la vitesse, qui travaillent de ça. Mais s'imaginer faire un 30-30, donc du 10 fois 30-30, avec 30 secondes sans respirer. Là, moi, tu vois, je reprends l'entraînement club dans 2 jours. Si le coach, il me met ça, j'imagine pas me faire mon 30-30, tu vois, en me disant, je vais faire mon effort max sans respirer. Donc, j'ai du mal à l'imaginer. Alors, je sais pas si je dois tester d'ailleurs parce qu'il faut, j'imagine, un certain entraînement pour y arriver.
Non, non, tu peux tester, tu peux commencer par faire un 5 x 30-30, voir si ça passe, après 10 minutes 20 minutes d'échauffe. Par contre, il faudra réduire l'intensité, il faudra pas être à un rythme de croisière classique. Il faudra réduire l'intensité, tu réduis l'intensité, tu te cales sur 8-10 km heure, donc vraiment, vraiment très faible. Et puis tu tentes un 5 x 30-30, voir comment ça passe, quoi. Voilà. Avec une belle inspi avant de partir, voilà, et avec quelqu'un qui court à côté de toi, pour gérer une surveillance. Et puis tu vois comment ça passe. Et puis si ça passe bien, tu fais une récup et tu refais un 5 x 30-30. Tu fais 5 minutes de pause, pareil, au même rythme. Tu peux augmenter un peu le rythme, tu peux passer sur 10-12. Et après, tu redescends à 8-10 pour te refaire un 5 x 30-30, par exemple. Ça peut être une idée. Après ça, c'est vraiment travailler en hypercapnie, mais c'est exactement le même principe, par exemple, que quand on travaille avec un masque réducteur, tu vois. Tu vois, souvent des athlètes travaillent avec des masques réducteurs, mais en fait, c'est pour travailler la force du diaphragme, effectivement, pour travailler aussi ça permet de développer aussi les muscles intercostaux, mais ça fait travailler aussi en hypercapnie, quand même. Donc c'est un peu le même principe, alors poussé un petit peu plus à l'extrême, on va dire. Parce que là, on arrête carrément de respirer. Mais si tu veux, c'est le même principe, en fait. C'est travailler en dette d'oxygène et en saturation en CO2 pour augmenter les performances, en fait, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis sur le diaphragme. Alors, je vais rebondir sur cette histoire de force du diaphragme parce que moi, c'était une faiblesse. Mon diaphragme, il travaille pas assez, quoi. Bon, ça fait partie des choses. Et c'est là que je me dis aussi, toi, dans ton domaine, dans ta connaissance de la respiration, forcément, tu en as parlé, hein, ça se travaille aussi, cette histoire-là. C'est compliqué à travailler, d'ailleurs, cette capacité du diaphragme à arriver finalement à mieux. Enfin, être plus puissant, c'est quoi? C'est une question de puissance en fait, parce que c'est un muscle, hein.
Ouais, c'est un muscle, bien sûr. Alors, il y a une manière de le travailler qui est assez simple, c'est soit d'avoir ce masque réducteur de débit, donc les training masks en fait, hein. Je sais pas si tu vois ce que c'est, cette espèce de masque noir que tu te colles sur le visage, avec des valves qui peuvent varier. Je pense que ça, c'est un excellent outil en fait, hein, pour travailler la force du diaphragme. Et sinon, tu peux aussi faire ça avec les moyens du bord, voilà, avec un stylo Bic par exemple, voilà, que tu prends dans la bouche et tu essaies de respirer comme ça avec pendant 5-10 minutes. Et ça va vraiment, vraiment muscler le diaphragme pour le coup avec une grosse résistance. Ça peut être ce genre d'exercice, quoi, par exemple. Après, il est important aussi de s'assouplir le diaphragme, pas que de le muscler. Et donc l'assouplissement du diaphragme, ça peut passer par des exercices de ventilation ventrale notamment, par des exercices de yoga aussi, hein, où on va apprendre à pratiquer ce qu'on appelle des rétroversions du diaphragme, hein, où on va améliorer la souplesse diaphragmatique. Et en fait, voilà, force plus souplesse, ça permet, je pense. En tout cas, en apnée, ça permet d'améliorer significativement les volumes de gonflage, ce qu'on appelle la capacité totale des poumons. Et je suis persuadé, là aussi, que travailler la souplesse et la force du diaphragme, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans d'autres sports, bien sûr.
Oui, d'ailleurs, tu parlais de yoga, de souplesse, etc. Hein, on voit de plus en plus de coureurs, d'ailleurs, qui parlent du fait qu'ils font de plus en plus de yoga par rapport. Il n'y a pas qu'une question d'étirement. C'est vrai qu'il y a une question. Il y a plein de mouvements en yoga qui font des étirements, finalement, de la cage thoracique, de l'ouverture. Hein, chercher le mot de l'ouverture. Même en podcast. Tu sais, j'en fais moi avant d'enregistrer les podcasts. Je fais de l'ouverture un petit peu, etc. Ça fait partie des exercices où on se rend compte, en fait, quand on est assis sur nos chaises, on est dans un monde où on a l'impression qu'on se referme sur nous, sur cet appareil respiratoire. Je sais pas si on a des chiffres ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on respire pas assez, en fait.
Ouais, en tout cas, on respire peut-être pas de la bonne manière. Et ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et de temps en temps, de prendre un moment pour soi, pour respirer convenablement. Après, oui, yoga, très intéressant. Alors, notamment le pranayama, que nous, on pratique un petit peu, nous autres apnéistes. Il y a des postures, voilà, qui permettent. De travailler la souplesse du diaphragme. Je pense à l'Uddiyana Bandha, par exemple, qui est vraiment la rétroversion du diaphragme à proprement parler, où on va vraiment venir tirer sur le diaphragme. Pratiquer ça en fait régulièrement, quotidiennement, c'est déjà énorme en fait, et en quelques semaines, on peut déjà significativement, je pense, améliorer la souplesse de son diaphragme. Après, oui, c'est vrai que pour répondre à ta question, on ne sait pas. On sait, la plupart des gens n'ont même pas conscience, en fait, quand on se ventile qu'on se ventile pas de la bonne manière la plupart du temps. En fait, on oublie en grande majorité de se servir de notre sphère abdominale quand on se ventile. C'est-à-dire qu'on se ventile avec la sphère thoracique beaucoup, hein, donc avec le haut, la partie haute en fait de nos poumons, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, on oublie la plupart du temps la partie ventrale qui est fondamentale, hein, parce qu'en plus, les poumons ont une forme pyramidale, donc la plus grosse partie, le plus gros volume est situé en bas des poumons. Et c'est vrai que si on apprend du coup à bien se servir de son diaphragme, c'est-à-dire à le pousser vraiment vers le bas, vers les viscères, à l'inspiration. à sortir le ventre, hein, concrètement, et à vraiment pousser le diaphragme le plus bas possible, on va réaliser de bien meilleurs gonflages en fait que qu'en se ventilant avec la partie uniquement thoracique. Alors cette ventilation ventrale, c'est important de réussir à de la comprendre et de la maîtriser. C'est pas très très compliqué, hein, honnêtement. Il suffit de se servir de son ventre pour respirer et de bien pousser le diaphragme en fait vers le bas. Donc c'est vraiment faire le gros ventre, hein, quand on inspire et pousser le nombril vers la colonne vertébrale, donc rentrer le nombril quand on souffle. Et se servir de cette ventilation. Alors c'est important de la connaître et de la maîtriser. Après, c'est très très difficile de la mettre en pratique au quotidien en permanence. Moi-même, quand je fais mes courses, quand je suis dans les transports en commun, quand voilà, quand je suis là en train de te parler, je me ventile pas de manière ventrale, hein, évidemment. Hein. Personne fait ça. Par contre, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et de temps en temps, si on en ressent l'envie, de prendre 5 minutes pour faire un ou deux exercices, voilà, où on va, voilà, on va se servir de son diaphragme convenablement pour se ventiler, et puis faire un petit peu de respiration ventrale. Ça peut que faire du bien, et c'est justement ce genre d'exercice qui va faire baisser le rythme cardiaque, déstresser, voilà. Et c'est ce genre d'exercice, moi, que je fais faire, en tout cas, à mes stagiaires, quand je rencontre des personnes stressées aussi, que j'ai entre les mains pour essayer de leur apporter des clés de gestion du stress. Voilà, quand je fais ce genre de stage ou ce genre de séance avec des gens, ben c'est ça que je leur explique, quoi. C'est que c'est très difficile d'avoir cette ventilation au quotidien en permanence, mais par contre, voilà, dès qu'on sent qu'on est un peu stressé, qu'on est tendu, dès qu'on sent qu'on commence à être angoissé pour quelque chose, que c'est quelque chose qui devient même presque incontrôlable, hein, parce que parfois, souvent, le stress et l'angoisse, c'est des choses qu'on contrôle absolument pas. Et ben, c'est des choses qu'on peut vraiment contrôler grâce à la ventilation, grâce à ce genre d'exercice de ventilation. Et qui peuvent, voilà, qui influent directement sur le niveau de stress, le rythme cardiaque, etc. Donc c'est ça que je dis, voilà. Mais en général, c'est très difficile à faire de manière inconsciente, mais c'est quelque chose qui nécessite d'être conscientisé, en tout cas, et que c'est très, très bénéfique quand au moment où on s'arrête 10 minutes et qu'on fait quelques exercices, quoi, voilà.
Ouais. Alors, ça me fait penser tout de suite à la notion de cohérence cardiaque, aux exercices de cohérence cardiaque.
Bien sûr.
Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est ma femme, dans ses études, parce qu'elle fait des études de naturopathie. Le premier jour, au premier cours, hein, ils ont offert de la cohérence cardiaque. Et alors, le truc, j'ai dit, bon, bah, on va essayer. Et alors, moi, ça me fait un bien fou. Et justement, parce qu'il y a ces histoires-là de respiration, de rythme, de faire attention à comment on respire, en fait, tout simplement.
Oui, bah la cohérence cardiaque, c'est un des premiers exercices que je fais faire à mes stagiaires sur les séances. Hein. C'est un grand classique. Donc c'est même pas un, enfin, je veux dire, c'est un exercice qu'on utilise nous autres apnéistes dans notre pratique, mais c'est un exercice qui va bien au-delà de la simple pratique de l'apnée. Hein. La cohérence cardiaque, ça se pratique dans plein de disciplines, hein, la sophro, le yoga, la relaxation. Enfin, je veux dire, c'est. Mais c'est vrai que c'est ce genre d'exercice en fait qu'on pratique. Voilà, c'est prendre conscience des différents volumes ventilatoires, donc ventral, thoracique, même claviculaire, pourquoi pas. Et ensuite, c'est passer à travers toute une série d'exercices de ce genre, y compris de la cohérence cardiaque, de la ventilation au carré, de la rétention de souffle, voilà, des exercices qui vont vraiment amener le pratiquant, qu'il soit débutant ou confirmé d'ailleurs, qui va l'amener à atteindre un état en fait de relaxation assez profond, quasi hypnotique, hein, même. J'ai souvent des mecs qui s'endorment pendant les séances d'ailleurs. Et c'est grâce à ce genre d'exo en général que j'amène 99% de mes baptêmes à faire entre 2 et 3 minutes d'apnée sur une première séance. Voilà, donc, alors que tous les gens me disent en arrivant, moi je vais mourir au bout de 20 secondes. Voilà. Classique, hein, comme tout le monde hein, d'ailleurs. Mais c'est normal, hein, les gens ne savent pas. Donc quand j'amène comme ça tout le monde à 2-3 minutes d'apnée minimum, hein, grâce à ce genre d'exercice de ventilation au préalable, les gens ressortent de là et sont complètement. Enfin, les gens hallucinent, quoi. C'est hyper marrant. Mais voilà, en tout cas, oui, ça passe par, pour répondre à ta question, ça passe par ce genre d'exercice, ouais. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un des premiers exercices que je fais faire sur ces séances. Et les exercices qui suivent sont des exercices qui ressemblent un peu à ça, dans lequel moi j'ajoute souvent de la rétention. C'est des exercices en fait qui partent de quelque chose de très général comme la cohérence cardiaque et qui vont de plus en plus vers du spécifique apnée en fait. Voilà. C'est-à-dire que la cohérence cardiaque, c'est vraiment de la relaxation. Et en fin de séance, on finit sur des exercices qui sont purement apnée, quoi. Mais je commence pas tout de suite par de l'apnée parce que ça marche pas sinon. Sinon, ça fonctionne pas.
C'est marrant parce que quand je t'entends parler, en fait, j'ai lu il y a pas longtemps le livre de Wim Hof sur sa méthode, etc. Où justement, il est beaucoup basé sur ces histoires de. Alors, il montre des chiffres hein, sur le fait qu'on a tendance, notre cœur bat trop vite, hein, qu'on est beaucoup à avoir le cœur qui bat trop vite, etc. Et il parle aussi, alors bien sûr de respiration, de cœur. Il parle aussi d'une notion d'engagement. Et je pense que ça fait partie aussi de. Bah, on peut pas faire un sport comme tu fais le tien. Hein, de se dire je dois partir en apnée pendant X temps sans un engagement et tu parlais de mental justement dans cette histoire-là hein, c'est-à-dire que c'est quand même des notions enfin on retrouve un petit peu ces notions-là de dire on a un contrôle du corps de la respiration du cœur et de s'engager dans quelque chose qui nous paraît pas naturel à première vue mais tu disais que finalement on est capable de faire 2-3 minutes relativement simplement. C'est il y a quand même une lutte. Enfin, tu te parlais de ce sentiment de d'avoir envie de respirer comme ça, hein, finalement. Donc, il y a un moment donné quand même. On revient sur cette notion de mental, sur cet engagement à dire bon bah là, je vais essayer d'aller pousser plus loin ce que je suis capable de faire quoi.
Ouais, et puis d'ailleurs, l'intérêt est là en fait, hein, c'est-à-dire que il y a deux choses, je dirais, parce que souvent on me demande, oui, mais c'est très désagréable, alors pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on peut trouver une certaine forme de plaisir dans l'effort. Hein, ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens qui comprennent pas pourquoi on court 42 km, par exemple, alors qu'on a envie de vomir, on est à moitié évanoui, on n'a plus de jus, on a des crampes partout, on a des douleurs musculaires. Enfin, les gens comprennent pas en fait forcément pourquoi on fait ça. Et c'est pareil, les gens comprennent pas pourquoi je m'arrête de respirer alors que j'ai très envie de respirer et je continue à m'arrêter de respirer alors que j'ai déjà très envie de respirer. C'est qu'en fait, il y a de la satisfaction dans l'effort, il y a de la satisfaction dans le dépassement de soi sur le moment, c'est-à-dire à l'instant T. Quand j'arrive à me dépasser, que j'ai fait une belle perf, je suis très content. Et il y a aussi un impact en termes d'équilibre psychique, donc qui va concerner la gestion du stress. La gestion des défis du quotidien, des difficultés, la confiance en soi, la conscience de soi, de son corps, de ses capacités, enfin, tout un tas comment dirais-je, de topics qu'on retrouve globalement dans la santé psychique, si je veux dire, dans l'équilibre psychique, tu vois. Et en fait, tout ça, ça se ressent, ces impacts-là, sur la pratique régulière. C'est-à-dire, quand on sait pas à l'instant T, là, c'est quand tu pratiques régulièrement, que tu vas faire des séances d'apnée régulièrement. En fait, la gymnastique mentale, si tu veux, nécessaire pour se dépasser dans cet effort, va impacter très vite le pratiquant au niveau de son équilibre général. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le fait de se dépasser, la gymnastique mentale qu'impose le dépassement de soi dans cette envie de respirer, si tu veux, quand elle est pratiquée régulièrement, en fait, elle te rend plus fort. elle te rend plus fort en termes de, voilà, de prise de recul, de gestion du stress. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ça, en fait. Et je pense que c'est pareil, en fait, dans tous les... les sports un peu extrêmes comme ça, où tu vois, on a un réel engagement mental à gérer, en fait. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort régulièrement, ça renforce, en fait. Ça renforce. Et c'est ça que j'ai envie de répondre, moi, à ces gens-là qui me posent la question, souvent légitimement d'ailleurs, je peux comprendre. Hein. C'est pourquoi tu fais ça, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui renforce à la longue. C'est-à-dire pratiquer régulièrement ce genre de choses, ça aide à aller mieux, en fait. Parce que t'apprends à être dans le dépassement, à être dans la concentration, dans l'écoute, dans le fait de sortir de sa zone de confort, de se dépasser, d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est gratifiant, en fait. C'est un chemin personnel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil dans tous les sports, en fait. Hein.
C'est là
et
où
en fait, c'est ça la réponse.
Ouais.
Voilà.
C'est là où le sport a en fait une manière de développement personnel en fait par le biais du sport. D'ailleurs, dans ton livre, tu dis quelque chose sur la confiance, hein, sur l'exploration de ses potentialités en fait. Il faut s'autoriser à explorer ses potentialités sans écouter ceux qui nous exhortent à aller tout droit, à descendre la pente naturelle, qui transforme peu à peu un jeune en vieux sans autre bénéfice.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tout nous pousse en fait à rester dans le confort, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est bon, à part le sport business, bien sûr. Hein, donc les salles de sport où on voit sur les affiches des mecs et des nanas bodybuildés et où on nous vend en même temps des protéines, quoi. Donc à part ça, si tu veux, c'est vrai que tout nous pousse à rester dans le confort, quoi. C'est-à-dire que tout nous pousse à rester dans la consommation et dans notre zone de confort. On nous invite rarement, en fait, à nous poser des questions, à nous remettre en question, à prendre du recul, à sortir un petit peu du cadre de la norme, en fait, du cadre normal, entre guillemets, des choses. C'est-à-dire, on nous invite à prendre les transports en commun pour aller travailler, à bien travailler, à rentrer chez soi, à regarder le journal télévisé, et puis... Il y a plein de gens qui sont pas comme ça, bien sûr, mais je dirais que il y a tout un pan de la société aujourd'hui qui nous pousse à être le plus possible à être comme ça, en fait, parce que ça fait de bons consommateurs, parce que ça fait de bonnes gens, qui font ce qu'il faut quand il faut, quoi. Et en fait, je pense que sortir de sa zone de confort dans un sport extrême, c'est une manière comme une autre, en fait, de se marginaliser un petit peu par rapport à ça et de se distinguer, en fait, un petit peu, et de s'affirmer en tant qu'individu, en fait, quoi. Et cette manière, en fait, de s'affirmer dans cette société qui est très homogénéisée, hein, justement, c'est de sortir le plus possible de sa zone de confort, mais pas que dans l'apnée, on s'en fout. Ça peut être dans n'importe quelle discipline sportive, mais ça peut être aussi dans la recherche scientifique, dans la conquête spatiale, tu vois, ou même dans le fait de monter un projet à soi, d'entreprendre en fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire, d'avoir la prise d'initiative, de monter un projet, c'est d'entreprendre, en fait, grosso modo au sens large du terme, tu vois ce que je veux dire. Et même pour un employé de bureau, c'est possible, c'est-à-dire il faut trouver simplement ce dans quoi on a envie de sortir de sa zone de confort, tu vois. Et je pense que c'est comme ça si on n'en fait pas sa vie, au moins on en fait son hobby, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on se distingue en tant qu'individu, en fait. Parce que sinon, on devient un mouton, quoi, tu vois. Donc voilà. Et moi, c'est le sens de cette phrase, c'est ça, en fait. Voilà, c'est-à-dire que tu vois, faire, sortir de sa zone de confort dans un sport extrême comme je le fais, c'est ma manière en fait de m'affirmer en tant qu'individu en fait quoi, voilà. C'est aussi ça quoi, avec tout le reste.
Tu l'as découvert enfin parce que tu dis aussi que tu dis que c'était que c'est une idée dévastatrice et que tu as payé pour le savoir et que tu as lutté contre ça. C'est vraiment au moment que tu découvres l'apnée que tu découvres ça ou
Attends, j'ai pas compris ta question, excuse-moi.
Tu dis que alors dans ton livre tu dis j'ai payé pour le savoir et je tiens à lutter contre cette idée dévastatrice et désolante en disant que finalement on a des chemins au début à 16-18 ans on doit choisir un chemin, on sait pas trop par où aller etc. Et finalement c'est au moment où tu découvres l'apnée où tu découvres finalement ce monde-là et ce dépassement, cet engagement-là, que tout d'un coup tu bascules finalement, tu te rends compte de tout ça.
Ouais, non, je m'étais rendu compte avant, hein, dans d'autres domaines déjà. Moi, j'ai toujours été marginal. Hein, depuis tout gamin, bon voilà, j'ai jamais été vraiment comme les autres, on va dire. Même si tout le monde est différent, hein, mais bon, je pense que j'étais assez marginal, en toute modestie. Et l'apnée est venue en fait. Assez naturellement, mais je savais pas si tu veux avant que je vais faire de l'apnée quoi. C'est vraiment un truc qui m'est tombé dessus et il se trouve que j'étais bon, donc j'ai continué, je me suis donné à fond dedans. Mais oui, j'ai toujours été marginal. Après, le fait de sortir de sa zone de confort permet justement de s'affirmer, si tu veux, en tant qu'individu. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec l'apnée. Oui, 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 c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec l'apnée. L'apnée est vraiment une école de vie. Hein. C'est un sport bien-être, c'est un sport philosophie, c'est un sport thérapie vraiment. Hein. C'est vraiment un sport thérapie quoi. Et en fait, le fait de pratiquer, si tu veux, ce sport où on apprend vraiment à dépasser un réflexe de survie primaire, hein, c'est ça, hein, à travailler sur cette envie de respirer. Le fait de le pratiquer régulièrement. Ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes en fait et sur notre place dans ce monde quoi en fait hein, vraiment c'est ça permet de se découvrir quoi voilà de se découvrir et d'avoir plus de recul sur le quotidien et le monde qui nous entoure en fait quoi c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de difficile régulièrement en fait ça te fait gagner en maturité en fait, ça te fait gagner en analyse, en capacité d'analyse aussi, tu vois. Et donc c'est simplement ça en fait quoi. C'est ça l'intérêt vraiment de ce sport en tout cas pour moi quoi, je trouve.
Alors, t'as parlé de talent, mais en fait, on s'est bien rendu compte au début hein, quand tu parlais que bah, finalement c'est beaucoup de travail aussi, beaucoup d'entraînement hein, d'arriver à ça, c'est parce que le talent, finalement, c'est juste un petit truc. Mais s'il n'y a pas de travail, finalement, le talent, il sert à rien, j'ai envie de dire. Ça représente, que les gens se rendent un peu compte, finalement, ça représente combien de temps d'entraînement, à peu près, pour arriver à mixer tous ces éléments-là pour arriver à la performance, au final.
Bah, en termes d'apnée pure, en réalité, il faut faire attention parce que si on fait trop d'apnée, on peut être en surentraînement, entre guillemets. C'est bizarre d'entendre ça, mais ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Hein, l'apnée, c'est très exigeant mentalement. Donc, quand on en fait trop, on peut vraiment se dégoûter, quoi. Donc, moi, j'en connais plein, hein, des athlètes qui ont arrêté qui ont jeté l'éponge parce que. Ils avaient des méthodes d'entraînement, des rythmes d'entraînement trop intenses. Après, c'est vraiment propre à chacun. Hein, c'est encore un sport où on découvre plein de choses. Donc, il n'y a pas de certitude, ça a été beaucoup moins étudié que la course à pied, tu vois, l'entraînement. Hein, donc, chacun a vraiment sa méthode, mais je sais que personnellement, je dépasse pas 3 séances d'apnée par semaine. Voilà. 3 séances d'apnée par semaine, d'une heure et demie, 2 heures, en spécifique, hein, donc en piscine, dans l'eau. C'est un rythme, c'est un très bon rythme pour progresser. Au-delà, je sais qu'il y a un risque de surentraînement. Voilà. Et en dessous, 2 entraînements, c'est bien. un entraînement, ça permet juste de garder le niveau, quoi. Voilà. Donc, trois entraînements, c'est vraiment un bon compromis. Donc, c'est 3 fois 2 heures par semaine d'apnée pure. Hein, voilà. Après, bah, y a tout ce que je fais à côté. Voilà, bon, j'essaie de faire du sport tous les jours. Hein, donc, c'est du sport au quotidien. Voilà, c'est du sport au quotidien. Après, l'apnée en termes de travail, voilà, je te dis, c'est 3 séances par semaine, mais c'est surtout un travail. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'il y a du talent, il y a beaucoup de travail. Je pense que l'apnée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est aussi un sport où il y a beaucoup de talent, justement, beaucoup d'inné. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux, justement, par rapport à cette capacité à se dépasser dans l'envie de respirer. Et on n'est pas tous égaux par rapport à notre capacité à aller loin dans l'hypoxie, justement, avant de perdre connaissance. Et même si c'est quelque chose qui se travaille, il y a aussi des prédispositions mentales et génétiques pour réussir à aller très très loin, en tout cas je parle d'apnée piscine, là, voilà, donc d'apnée dynamique, hein, attention. C'est toujours pareil, c'est différent de la profondeur, mais bon, après, grosso modo, il y a quand même plein de choses en commun, mais c'est vrai qu'il y a des prédispositions mentales et génétiques, sûrement, pour aller très très loin en apnée. C'est vrai que, il y a des gens qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort, quoi. Voilà. Ça les fait chier, ils n'aiment pas ça, et donc, ils n'y arrivent pas. Voilà. Ou alors, ça leur fait peur, ou alors, ils ont pas envie, je sais pas, ils ont pas la motivation pour sortir de leur zone de confort, ce que je peux comprendre. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que pour aller loin en apnée, il faut avoir cette capacité, cette combativité, en fait, que tout le monde n'a pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire réussir à sortir de sa zone de confort, avoir l'esprit combatif, aller loin dans l'effort, dans la difficulté. Voilà, tout le monde n'y arrive pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est une prédisposition qu'il faut avoir, c'est sûr. C'est vrai que quand tu regardes tous les, enfin, peut-être pas tous, mais souvent quand tu rencontres des grands champions d'apnée, tu vois que c'est des mecs quand même qui ont une capacité qui ont un esprit assez combatif, quoi, tu vois. Qui ont une capacité à gérer l'effort, à gérer la difficulté, tu vois, il y a quand même des profils un peu type, quoi. Voilà. Et c'est absolument nécessaire pour arriver à aller très loin en apnée. Après, attention, je parle d'apnée compétition. Pour pratiquer de manière loisir, en club, comme 90% des licenciés, en France, n'importe qui peut y arriver. Hein. Tout le monde peut, s'inscrire dans un club, pratiquer, progresser, en ressentir les bénéfices et les bienfaits, sans être un champion d'apnée. C'est absolument pas nécessaire. Attention, moi.
Et ben on a fait un bon tour. C'est intéressant de plonger. Alors, j'ose un peu le terme comme ça, qui est de découvrir un petit peu ce sport, parce que vraiment, c'est un sport qui, c'est vrai. Moi, alors, je vais te dire en plus un truc, parce que moi, quand j'allais à la piscine, on avait les plongeurs qui venaient après avec les bouteilles, et j'avais du mal à comprendre leur plaisir de plonger avec des bouteilles dans une piscine qui faisait 2,30 m de profondeur, en fait.
Je comprends pas trop non plus, hein. Je te rassure.
D'accord, là tu me rassures, parce que et je me disais, c'est vrai qu'en apnée, au moins, je voyais plus la performance, les choses comme ça, cette idée de dépassement, d'aller chercher quelque chose de plus, alors que je me disais qu'avec les bouteilles, elle se baladait dans la piscine, je voyais pas trop, effectivement, l'intérêt. Et je suis pas surpris qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient envie, finalement, de découvrir aussi ça, parce que c'est une autre forme, finalement, bah, de découverte de l'eau, d'autres choses. Et puis, ça me semble en plus, autant te dire, tellement plus intéressant que de juste être dans sa ligne à faire des longueurs. Je te dis ça parce que j'en ai bouffé l'été dernier et que, au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais même si je préparais c'est pour préparer un swimrun, donc je me suis dit, il faut quand même que je les fasse, mes longueurs. Mais je me dis, au moins, ça apporte une autre dimension, en fait. Même si tu l'as bien dit que c'est complémentaire, mais ça apporte une autre dimension, en fait.
Bon, après, pour revenir sur le début de ta question, la différence entre les plongeurs bouteille et l'apnée, c'est que bah, il y en a un, c'est un loisir, et l'autre, c'est un sport, déjà. Hein, les plongeurs bouteille, c'est un loisir. Donc, c'est vrai que je comprends pas trop ce qu'ils font en piscine, à part passer des niveaux, éventuellement, apprendre à compenser, à gérer la flottabilité avec le gilet. Enfin bon, après, je m'y connais pas très très bien en plongée sous-marine, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. L'apnée, c'est un sport. Donc, c'est comme si on parlait de natation. Voilà, donc c'est ça qui fait la différence. Alors, ça a toute sa légitimité en piscine. On apprend à plein plein de choses. Voilà, c'est un sport très complet. Donc voilà, en fait, c'est ça la simple différence, hein. Entre les deux, les apnéistes ont toute leur légitimité en piscine, les plongeurs bouteille beaucoup moins, je trouve. Ouais, effectivement, c'est vrai que je trouve ça un peu, je trouve ça, j'arrive pas à comprendre l'intérêt. Mais c'est vrai que oui, par rapport à la natation, c'est clair que voilà, ce que tu disais, que ça pouvait te paraître intéressant Ben c'est vrai qu'il y a un aspect très ludique, et je pense qu'il y a des passerelles avec la natation qui sont évidentes, quoi. Si aujourd'hui on fait faire de l'apnée à des nageurs de haut niveau, je suis sûr que ça peut les aider dans leur pratique, dans leur discipline, et je suis sûr que même ça peut leur donner envie, quoi, de faire peut-être autre chose. Alors, apprendre à nager à des apnéistes, ça peut être très utile aussi, hein, parce que aujourd'hui, les apnéistes piscine, bah, il n'y en a qu'une petite partie qui sait vraiment très très bien nager. Après, dans le haut niveau, tout le monde sait à peu près nager, hein, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des passerelles énormes qui existent entre les deux disciplines. Et aujourd'hui, faire des stages de natation, de perfectionnement à la nage pour des apnéistes, ce serait une bénédiction. Et vice-versa, faire des stages d'apnée à des nageurs de haut niveau, ce serait juste génial, quoi. Et je pense qu'il y a des passerelles énormes entre les deux fédés qui peuvent exister, entre la FFN et la FFESSM, qui peuvent exister et qui pourraient être super bénéfiques, dans les deux sens, quoi, c'est clair.
Voilà, et comme on le disait, hein, c'est pas impossible aussi que l'apnée puisse servir à d'autres sports. C'est vrai, hein, quand on voit un petit peu les caractéristiques, parce que tu te parlais de cette résistance à ne pas vouloir respirer. Quand on court, on peut respirer en permanence, mais on est dans la lutte finalement pour arriver à trouver la bonne respiration, pour trouver de l'oxygène, pour arriver à avancer. Et c'est vrai que ce contrôle du souffle, ce contrôle de la respiration, du rythme cardiaque aussi, on voit aussi les grands athlètes, hein, comment ils se préparent, la détente, tout un tas de choses comme ça. On comprend les passerelles, et c'est ça qui était très intéressant. Et puis j'aime beaucoup le message. C'est vrai que je remettrai la citation dans les notes de l'épisode, de la citation de vers ton livre, parce que. Pour tout dire, quand Hermano, qui m'a passé ton contact, m'a envoyé cet extrait-là, j'ai dit waouh, mais ça parle tellement à moi, le hamster qui était sur son canapé, qui était obèse, gros dans son canapé, qui bougeait plus, tu vois, le truc tu cites tellement bien que coincé un petit peu dans la facilité de son monde, etc. Qui découvre en fait des nouvelles zones, hein, dans lesquelles on peut aller. Moi, j'ai choisi. Je sais pas, j'ai pas choisi la course à pied d'ailleurs. La course à pied, c'est un petit peu imposé à moi. Ça se trouve, j'aurais pu découvrir par l'apnée, j'aurais pu découvrir par plein d'autres sports, etc. Mais en tout cas, la philosophie, hein, de cette approche, de ces habitudes aussi, parce que finalement, on a compris qu'il y a aussi beaucoup d'habitudes, hein, derrière ta pratique, hein, de mode de vie sportif, on n'a pas trop parlé. Et ce côté entrepreneurial aussi. Pour finir, quels sont d'ailleurs tes projets? Sur quoi tu travailles? Est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce que tu as des choses qui se préparent? Ou est-ce que c'est un peu dans l'inconnu avec la période actuelle?
Bah les deux. J'ai des projets et c'est un peu dans l'inconnu. Non, mais je travaille sur un projet. J'ai un projet sportif quand même, même si j'ai arrêté la compétition il y a plusieurs années. J'ai un projet de tentative de record d'apnée sous glace, donc un peu à l'image de ce que j'avais fait en 2017, sauf que cette fois je serai sans combinaison, donc en slip, dans une eau entre 0 et 2 degrés. Où voilà, je vais tenter un record du monde d'apnée en distance sous la glace, voilà, sans combinaison, à la brasse. Et donc ça, je prépare ça pour mars 2022. Donc il y a toute une composante acclimatation au froid, en plus de l'entraînement apnée, qui est hyper intéressante, et sur laquelle on travaille d'ailleurs avec des médecins. Donc on va avoir une recherche médicale qui va être voilà, à laquelle va procéder l'INSEP normalement, hein, sur le sujet. Donc on est pas mal à bosser là-dessus. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et en marge de ce donc là bon, pour ce projet-là, donc c'est un projet vraiment de c'est un projet sportif que je suis en train d'essayer de monter. Il y a on est en train de chercher à essayer de faire produire un documentaire sur sur ce projet qui, au sein duquel, en fait, on me suivrait sur toute ma préparation ces 15 prochains mois jusqu'au record en mars 2022 avec bah, tout ce que ça représente, hein, donc l'aspect sportif, entraînement, médical, recherche, humain, etc. Et donc pour ça, on est actuellement vraiment en phase de pré-production hein, du record. Donc c'est vraiment mise en place de la logistique, recherche de partenaires, donc de sponsors, recherche aussi de visibilité médiatique et de production pour du documentaire. Donc voilà, on est en train de mettre tout ça en place actuellement. Et donc en pleine recherche en fait. Et en marge de ce projet de record, j'ai aussi un projet de série documentaire voilà, éco-engagée, on va dire, dans laquelle je partirai aux quatre coins du monde et essayer de mettre à profit mes capacités d'apnéiste pour découvrir un peu le monde sous-marin et les peuples qui vivent avec les océans. Et ça, c'est voilà, ça part vraiment d'une envie assez authentique, hein, qui est en fait le pitch de base, c'est de dire que je suis voilà, j'ai grandi en ville, hein, j'ai grandi en région parisienne, j'ai des capacités extraordinaires d'apnéiste, voilà, entre guillemets, et j'aimerais aujourd'hui mettre à profit ces capacités d'apnéiste pour aller découvrir en fait le monde qui m'entoure, voilà, avec ses yeux de citadin, voilà, entre guillemets, hein, attention. Et donc, voilà, l'idée, c'est de partir comme ça, découvrir en apnée, en fait, les océans à travers le monde et rencontrer, évidemment, les gens qui vivent dans ces endroits-là, quoi. Voilà, et attirer l'attention sur les enjeux écologiques, évidemment, de chaque endroit, pour essayer de comprendre ce qui s'y passe et pourquoi pas même d'essayer de trouver des solutions, quoi.
C'est un chouette projet. Le record du monde, c'était sous glace, c'est quoi? 175 mètres, j'avais vu, il me semble, j'avais noté.
J'avais nagé 175 mètres en Finlande, record qui a été battu l'hiver dernier par Alexei Molchanov, un Russe, qui a fait 5 mètres de plus. Voilà.
Et dans l'article que j'avais trouvé, tu disais que c'était très froid, intensément froid. Alors, il était en combinaison à l'époque.
Ouais.
J'imagine le défi complémentaire d'y aller en slip. Là vraiment, parce que tu disais dans l'article que j'avais trouvé justement que très rapidement l'envie de respirer, cette fameuse envie de respirer, elle vient beaucoup plus tôt avec le froid, la glace, etc.
Tout à fait, tout
Donc
à
j'imagine
fait.
que la dimension mentale est encore incroyable à pousser pour arriver là-dedans, quoi.
Ouais, bien sûr, bah, à plusieurs égards. Déjà, effectivement, l'envie de respirer arrive beaucoup plus tôt. Donc, on est mentalement, c'est très vite, très dur. Mais aussi, il y a deux autres choses qui sont quand même très difficile à gérer mentalement, c'est déjà le fait d'être dans une eau entre 0 et 2 degrés. Donc il y a un froid quand même qu'on soit sous 50 cm de glace, quoi. Donc il n'y a pas de sortie, quoi. Donc il y a un triple engagement mental, là, même, je dirais. Donc c'est. Voilà, je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque encore. Hein. J'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, je vais tout faire pour mener à bien ce projet. Et m'acclimater au mieux pour être prêt le jour J, voilà, et nager. Alors là, c'est pas 175 mètres à battre, hein, enfin ni 180 d'ailleurs. C'est sans combinaison et sans napalm, donc c'est à la brasse. Donc pour l'instant, la marque doit être posée à 102 mètres pour battre un record. Parce qu'il y a un record à 101 mètres. Voilà. Voilà ce que je dois nager sous la glace.
Bah, et en plus, alors j'imagine ça a donné des belles images parce que quand on voit les photos de ton record, déjà c'était avec la lumière à travers la glace, c'était des magnifiques images. Donc en plus, visuellement, hein, je pense que ça peut que marquer aussi quand on voit ça. C'est un magnifique projet, c'était une magnifique discussion de découvrir ce monde-là. Je te remercie beaucoup. Pour te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre tes aventures?
Instagram, principalement Instagram, Arthur Guérin-Boëri. Voilà, c'est là-dessus que je poste le plus de trucs, mes actualités. Et puis, bon, j'ai une page athlète sur Facebook aussi, qui est un peu moins fournie, mais voilà, sur laquelle on a le principal, en tout cas. Mais vraiment Instagram, oui, c'est là que je poste le plus de choses. Et puis, on aura bientôt aussi un site internet qui sera dédié à cette aventure, quoi.
Eh ben, je te souhaite une belle continuation de chouettes projets, hein. Moi, j'ai hâte de voir ça. Alors, je t'avoue que je regarderai ça de loin, moi qui suis frileux. Mais ça se travaille, hein. C'est pour ça que je t'avais dit, j'ai regardé les
Dans la
Wim
tête.
Hof, etc., un petit peu. Je m'étais un peu penché là-dessus parce que je trouve que c'est fabuleux aussi, hein, de cette le froid aussi finalement comme comme tu dis, c'est dans la tête aussi le froid finalement. Comment on est capable d'aller lutter contre ça.
Bien sûr.
C'était vraiment très chouette de t'avoir, de discuter avec ça,
Merci à
de ce
toi.
projet, de découvrir ce monde qui, moi, je suis une sorte de poisson, mais pas à ce point-là, quoi. Voilà, dans ce truc-là, moi, je passe ma tête, je passe ma vie sous l'eau quand je vais à la piscine, mais là, on est dans un univers qui est totalement incroyable, et je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci, merci beaucoup, et aussi pour cette vision et ce message, hein, sur que finalement, bah, ça vaut le coup d'entreprendre, hein, de se lancer dans des projets, et c'est aussi comme ça qu'on se découvre. Et qu'on découvre aussi bah, ses potentialités, et c'est ce que tu dis très bien dans ton livre, hein, justement. Bah, il faut tenter, il faut essayer, il faut voir ce qu'on peut faire, se dépasser. Et c'est comme ça aussi qu'on découvre finalement ses potentiels et probablement ses talents aussi.
Et qui on est, ouais, bien sûr.
Et bien, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao!
Merci Bertrand.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.